Bonjour David, bonjour à tous. Un mot sur la météo pour commencer ce matin avec un temps orageux. Orages qui ont déjà éclaté par endroits sur le bocage brestuaire notamment. Le risque orageux se dissipe cet après-midi. Les prévisions météo complètes à la fin de ce journal.
Le festival de poupées se termine ce soir.
Et de quelle manière? Avec Poupées des Rails, la grande fiesta attendue depuis des mois pour laquelle les billets se sont arrachés. 30 000 places vendues en seulement un quart d'heure. La bonne nouvelle, c'est que le festival de poupées s'inscrit sur la durée avec la 40e édition en 2026 et des investissements qui en disent long sur la volonté de poursuivre l'aventure. Ainsi, Jean-Marie Poirier, vice-président du festival, nous a indiqué au micro-colline de Boris Blay que Poupée devenait propriétaire du site de Bois Chabot.
Depuis aujourd'hui, j'ai un petit scoop quand même. On est propriétaire de cet endroit-là maintenant. On a acheté 9 hectares de terrain ici à Saint-Laurent. Pas pour se faire plaisir, mais pour sécuriser l'avenir du festival, parce qu'on voit trop de nos copains en Bretagne, à Carhaix et ailleurs qui ont des difficultés parce qu'ils n'ont pas la maîtrise foncière de leur site. Et du coup, ça leur joue des gros tours. Et donc, nous, on a la chance d'avoir un théâtre neuf. On a ce site maintenant qui est à notre disposition. Ben, c'est autant d'atouts pour les jeunes qu'on appelle la relève, voire la relève de la relève. Et franchement, c'est surtout pour eux qu'on fait ça. Et c'est chouette parce que enfin, je pense qu'ils en prennent la mesure, mais c'est des moyens importants qui vont leur permettre de pousser ce festival, cette belle aventure encore plus loin.
Poupées des Rails, ce soir avec 30 000 fêtards. Le festival aura en tout reçu 120 000 personnes en 2025, dont 65 000. Au Théâtre de Verdure.
Le Festival international de peinture de Magné débute aujourd'hui.
Et c'est un événement qui se profile avec la 37e édition de ce festival né en 1989. Il accueille chaque année près de 300 artistes participants sur les bords de Sèvres et plusieurs milliers de spectateurs. Gérard Doré est le président d'un festival qui développe sans cesse son attractivité.
Cette année, nous avons par exemple amélioré considérablement la dotation que l'on apporte aux peintres. Je pense que nous sommes le festival le mieux doté de France aujourd'hui, avec 20 000 euros de dotation sur les deux palmarès, puisque nous faisons deux concours, l'un sur une journée à Coulon et l'autre sur deux jours, samedi et dimanche, à Magné. C'est l'ancrage historique de ce festival sur Magné. Et puis, nous avons également, depuis l'année dernière, mis en place une exposition-vente, on appelle cela la galerie du festival, pendant deux jours. Donc, des peintres qui ont été primés lors des festivals antérieurs viennent présenter leurs œuvres au public.
Le festival mise aussi sur le prestige des invités d'honneur et cette année c'est Jean-Marie Zaki qui exposera dans l'espace culturel du Four-Ponté.
Jean-Marie Zaki, c'est un peintre de renommée mondiale, il expose notamment beaucoup au Japon et également il va assurer donc la présidence du jury qui établit le palmarès et puis il nous fait un formidable cadeau puisque il a peint une fresque murale de 4 mètres sur 3 qui va être dévoilée samedi matin lors de l'inauguration à Magné.
Des artistes reconnus et d'autres en devenir, c'est ce qui fait la force de ce festival de peinture de Magné qui décernera 47 prix sur le week-end. Il s'ouvre aujourd'hui à Coulon, puis samedi et dimanche à Magné.
À Waron, la fête au village a lieu ce samedi avec un sacré goût de melon.
3 ans après la faillite des deux sociétés locales, Soldive de Brie et Rouge-Gorge de Thésée qui ont produit pendant 60 ans plus de 80 000 tonnes par an de melon charentais, 1000 emplois d'été pour les lycéens ou les étudiants ont disparu de la plaine toircaise. Mais au-delà des regrets, le comité des fêtes organise depuis 3 ans le rendez-vous de Waron en fête qui a succédé à la célébrissime fête du melon. Waron en fête a lieu ce samedi 19 juillet dans la prairie de la salle polyvalente du village. Les précisions avec Stéphanie Arnaud, la présidente du comité des fêtes, au micro-colline de Dominique Hérault.
Pour garder cette entité de melon sur Waron et Brie et Thésée, pour pas oublier qu'ils étaient là à un moment donné et qu'ils ont fait vivre une grande partie de la population. Il y a de la nostalgie. Cette année, nous reprenons donc le concours du plus gros mangeur de melon avec 10 candidats. Nous savons que le gagnant des années précédentes va encore s'inscrire cette année, Joseph Dumoulin, qui a mangé plus de 2 kilos de melon en 8 minutes, 38. Voter cette année, le matin à partir de 10 heures, nous organisons un concours de palais vendéens, palais laiton et plaque plomb. On fait aussi un marché créateur, donc les créateurs de la région qui viennent exposer leur travail. Après, nous avons beaucoup de jeux, de gratuité de jeux pour les enfants, surtout structure gonflable, les jeux en bois. Et des artistes de tout genre. Donc il y a musique pop rock, guitare, un humoriste et notre traditionnel moule frites pour le soir et un bal avec une petite attraction tempête de neige.
Et un vide-grenier débute cette journée de samedi dès 8h, point culminant le concours donc du plus gros mangeur de melon. A prévu pour 17h, le moule frites dansant est à 15 euros. Il est préférable de s'inscrire au salon de coiffure de Waron. L'entrée et les animations sont gratuites.
Les guinguettes font leur retour ce vendredi au château de Bressuire.
Du 18 juillet aujourd'hui donc au 30 août, la ville de Bressuire et cette association partenaire proposent pas moins de 14 rendez-vous dans la prairie du château. La ville met les installations à disposition, à charge pour les associations d'animer le site. Les associations de danse, pour la plupart, y trouvent leur compte et parfois même de futurs adhérents. Véronique Villemontex, adjointe au maire.
Ça fonctionne très très bien parce qu'il y a beaucoup de gens qui partent en vacances et finalement il y a aussi beaucoup de tourisme vert. Et le soir, c'est un moment festif où on se rend compte qu'il y a beaucoup de liens sociaux, il y a une mixité et puis il y a plein d'enfants partout et puis ça danse.
Alors le principe reste le même, c'est la ville qui met les installations à disposition et des associations qui animent le site.
Oui, c'est vraiment le cahier des charges. La ville propose un maximum de logistique. Hein. Ça passe du tivoli, des chaises, des tables, de l'électricité, de l'eau. Elle installe évidemment le parquet, les lampions. Et puis, eh ben, ce sont les associations locales qui animent la guinguette.
Alors, il y a plusieurs associations dans des milieux divers, mais quand même, surtout, on retrouve les associations de danse.
Oui, essentiellement toutes les associations de danse, que ce soit des danses de salon, des danses en ligne. La salsa, qui chaque année, en plus, donne des cours, fait venir des professeurs, et les gens peuvent avoir une initiation, et ça, ça marche très bien.
La 4e édition de la guinguette du château débute ce vendredi à partir de 16h avec... Pour la première, l'association Danse Musette.
L'actualité sportive, Fabien.
Les amateurs de foot se voient proposer une belle affiche ce samedi 19 juillet à Mauléon, au stade Pierre-Martin, entre Choret et les Herbiers, deux équipes de National 2 qui figureront dans le groupe A la saison prochaine, avec notamment Angoulême, Bayonne, les Girondins de Bordeaux, Saumur, dont le repêchage a été officialisé. Poitiers également dans cette poule, Saint-Malo, La Roche ou encore la réserve de Lorient. À noter que Choret vient de réaliser un beau coup sur le marché des transferts avec la signature de Saturnin Alagbé, le portier des Chamois entre 2015 et 2020. En rugby, Niort connaît son calendrier, va découvrir le championnat de National 1 à domicile le 23 août face à Marcand Barœul. En handball, Celles-sur-Belle est de nouveau rétrogradé par les instances en National 1. Le club va faire appel de cette décision dans un communiqué. Les dirigeants regrettent que les éléments transmis et les efforts réalisés ces derniers mois pour établir la stabilité financière et structurelle du club n'aient pas été suffisamment pris en compte par la commission.
Après une saison semée d'embûches, Hugo Hay a renoncé aux Mondiaux de Tokyo.
C'était l'objectif de l'été 2025 pour l'athlète du SBAC, mais les virus et les blessures ont gâché sa saison post-olympique. Il n'était pas suffisamment armé pour songer à jouer un rôle dans ces championnats du monde. Hugo Hay.
C'est surtout le gros virus que j'ai eu tout début novembre en fait qui a tout cassé malheureusement et derrière je suis retombé malade deux fois donc j'ai vraiment pas eu de chance et après bah ouais dans ma course contre la montre le fait que je me sois reblessé au mois d'avril ça a forcément pas aidé. C'est pas la saison que j'espérais en post-olympique, ça c'est sûr. J'ai pris trop de retard dans ma préparation malheureusement. J'ai essayé tant bien que mal, tout fait pour remonter, mais ouais, je partais trop loin et donc là bah prendre le risque d'essayer de courir en août en prenant un risque de blessure, etc. C'était pas très intelligent. Donc je préfère couper avant et me dire que je prépare maintenant sereinement la saison hivernale prochaine et la saison estivale prochaine aussi.
À 28 ans, Hugo est à un tournant entre deux Olympiades. Il a décidé de quitter sa structure d'entraînement en Belgique avec Tim Morio pour s'installer à Toulouse dans un nouveau groupe dirigé par Marek Wolinski. Mais Hugo va garder une certaine autonomie qui lui va bien.
Ouais, bah, j'ai profité de l'année pour justement aller plusieurs fois à Toulouse, voir un peu comment étaient les infrastructures d'entraînement, le groupe que je voulais rejoindre plus ou moins, ou me greffer, on va dire. Comment c'était au niveau du staff médical. Du coup, bah là, j'ai pris ma décision que j'allais rester à Toulouse pour le prochain cycle olympique sur ces 3 prochaines saisons. Je vais rester mon propre coach, mais je rejoins un groupe d'entraînement où il y a Pierrick Jocteur-Morosier, qui est un de mes amis d'équipe de France d'athlée, qui vient de faire 3:31 là sur 1500 mètres, donc les minima pour les championnats du monde. Et c'est un groupe d'entraînement entraîné par un jeune bien dynamique qui a plus ou moins la même philosophie de l'entraînement que moi. Donc c'est pour ça que je peux faire le maximum avec eux.
Une nouvelle ère donc pour Hugo Hay dans un nouveau cadre pour préparer la prochaine Olympiade, tout en précisant qu'il est toujours à la recherche de nouveaux partenaires pour l'accompagner dans ce projet sportif.
Quel temps aujourd'hui ? Découvrez la météo avec Céolis, votre fournisseur d'électricité et de gaz en Deux-Sèvres.
Avec un début de journée relativement agité.
Oui, on le disait en début de journal, un temps orageux ce matin. Orages qui ont d'ailleurs déjà éclaté par endroits sur le bocage brestuérais, notamment. Le risque orageux se dissipe cet après-midi. Le ciel reste toutefois nuageux par moments, même si le soleil parvient à se montrer un peu ce vendredi. Les températures minimales autour de 20 degrés ce matin, c'est relativement chaud déjà, et les maximales sont annoncées à 33 cet après-midi. Le week-end, samedi, de petites pluies le matin, puis un temps globalement nuageux l'après-midi, comptez 28 degrés pour les maxis. Dimanche, un risque de pluie, de petites pluies tout au long de la journée, avec un thermomètre qui plafonne dimanche à 25 degrés.
Merci Fabien pour cette info près de chez nous. Le dernier rendez-vous, c'est tout à l'heure.
C'est à midi, bonne matinée.
C'était la météo avec Céolis, votre fournisseur d'électricité et de gaz en Deux-Sèvres. L'énergie est notre avenir, économisons-la.